Vous écoutez On lit pour vous.
Les récifs coralliens continuent de blanchir. Un texte de l'Associated Press paru le 16 avril 2024 dans la presse. Les récifs coralliens du monde entier connaissent pour la quatrième année un blanchissement global, ont déclaré lundi 15 avril 2024 d'éminents experts des récifs. Résultat du réchauffement des eaux océaniques dans le cadre des changements climatiques provoqués par l'humain. Le blanchissement des récifs coralliens dans au moins 53 pays, territoires ou économies locales a été confirmé entre février 2023 et aujourd'hui, ont déclaré des scientifiques de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, NOAA, et de l'organisme international Coral Reef Initiative. Cela se produit lorsque les coraux stressés expulsent les algues qui sont leur source de nourriture et leur donnent leur couleur. Si le blanchissement est sévère et prolongé, le corail peut mourir. Les récifs coralliens sont des écosystèmes importants qui soutiennent la vie sous-marine, protègent la biodiversité et ralentissent l'érosion. Ils contribuent également à de nombreuses économies grâce au tourisme. Le blanchissement se produit depuis un certain temps dans diverses régions. Dans le plus grand écosystème de récifs coralliens au monde, la Grande Barrière de Corail, près de l'Australie, le blanchissement a touché 90 % des coraux évalués en 2022. Le récif corallien de Floride, le troisième en importance, a connu un blanchissement important l'année dernière. Plus fréquent et plus grave. Mais pour que le phénomène soit déclaré à l'échelle mondiale, un blanchissement significatif devait être documenté dans chacun des principaux bassins océaniques, notamment les océans Atlantique, Pacifique et Indien, dans les hémisphères nord et sud. La nouvelle du lundi 15 avril 2024 marque le deuxième événement de blanchissement mondial au cours des 10 dernières années. Le dernier s'est terminé en mai 2017 et avait été provoqué par un puissant phénomène climatique El Niño, qui a réchauffé les océans de la planète. Il a duré 3 ans et a été jugé pire que les 2 événements de blanchissement précédents, en 2010 et en 1998. Le blanchissement de cette année fait suite à la déclaration selon laquelle 2023 était l'année la plus chaude jamais enregistrée. Alors que les océans du monde continuent de se réchauffer, le blanchissement des coraux devient plus fréquent et plus grave, a indiqué dans un communiqué Derek Manzello, coordinateur pour les récifs coralliens à la NOAA. La biologiste Selina Steed, directrice générale de l'Institut australien des sciences marines, a qualifié le changement climatique de « plus grande menace pour les récifs coralliens du monde ». C'était « Les récifs coralliens continuent de blanchir », un texte de l'Associated Press paru le 16 avril 2024 dans la presse.
Jardiner comme une suite de devinettes. Un texte de Rosémée Autonne Témorin, paru le 4 mai 2024 dans la presse. Quand tu pars tes semis en avril, que ça finit par pousser en septembre et que tu ne récoltes qu'une tomate, tu la manges, abîmée ou non. Chloé Fortier devint s'emballe en me parlant de la sensibilisation au gaspillage qu'engendre l'agriculture urbaine. Et moi, je ris en reconnaissant d'avoir mangé le plus laid des concombres l'été dernier. Je ne l'aurais jamais acheté en épicerie, mais je l'avais fait pousser, alors j'ai effectivement abaissé mes normes de qualité. On ne m'avait juste pas prévenu qu'il était si difficile de cultiver des aliments qui ressemblent à des aliments. C'est précisément pour redécouvrir la source de son alimentation que Chloé, 30 ans, a fondé le Jardin de la Devinette. On est si déconnecté de ce qu'on mange et de comment c'est produit. Juste faire pousser des fines herbes, ça permet de mieux apprécier le travail des maraîchers qui nous nourrissent. Sauf que Chloé est allée beaucoup plus loin que ça pour comprendre la nature du dit travail. Titulaire d'un bac en art à Concordia, elle amorce sa carrière de médiatrice muséale quand la pandémie vient interrompre nos vies. Celle qui jardine sur son balcon depuis 5 ans donne alors un nouvel élan à son passe-temps en convainquant son père, horticulteur de formation, de faire un potager sur le toit du plex familial. Le même été, Chloé s'inscrit à une journée d'initiation à la ferme complètement légumes à Mirabel. En 2021, elle s'y engage en tant que maraîchère pour la saison estivale. L'adaptation est intense, précise Chloé Fortier-Devin. La première semaine, tu dors bien, mais tu as mal partout. Ce n'est rien pour freiner sa passion naissante. En parallèle, elle cultive des semis provenant de semenciers artisanaux du Québec. Pas à la ferme, mais bien dans son salon. Ses plants trouvent rapidement preneur. Constatant l'intérêt des gens et leurs nombreuses questions, Chloé écrit et illustre un guide de jardinage urbain. Planification d'un potager de balcon. L'ensoleillement, l'espace, le type de pot, la terre, l'engrais. Le petit fascicule ratisse large et signe la première étape de l'entreprise de service conseil qui naît en 2022, le jardin de la devinette. La production de semis passe alors au sous-sol du père de Chloé, Richard Devin, d'où jardin de la devinette. Le nom de l'entreprise témoigne d'un amour filial, mais aussi du fait que pour Chloé, le jardinage, c'est beaucoup d'expérimentation, de tests et de découvertes. Pensons au bac à réserve d'eau qu'elle et une amie ébéniste ont créé l'an dernier. L'entrepreneur utilise des bacs à rangement ultra robustes, des drains agricoles et des tubes de remplissage pour fabriquer des bacs de 100 litres qui comprennent 25 litres de réserve d'eau. L'eau remonte dans le plant par capillarité avec les racines et la terre, m'explique-t-elle. Ça s'irrigue tout seul, et la réserve d'eau peut durer jusqu'à une semaine. Toujours dans une optique de partage, elle prévoit offrir un atelier de fabrication de bacs avec des chaudières de 5 gallons et des matériaux récupérés. Mettons que c'est un format mieux adapté au balcon. Cette année, la débrouillarde entrepreneur entame un nouveau chapitre. Elle occupe enfin un local commercial, avec un bail et tout. À la mi-février, Chloé Fortier-Devin s'est installée dans une pièce de 200 pieds carrés cachée dans le sous-sol des ateliers de la transition socio-écologique dans le quartier Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal. Un endroit logique, considérant que l'écologie est au cœur de cette initiative d'agriculture urbaine. D'abord, il y a un souhait d'hyperlocalité et de permettre aux clients de venir chercher leurs semis à pied. Ensuite, tous les pots sont consignés. Même que Chloé teste actuellement des plants sans pot grâce à un presse-motte qui crée des blocs de terreau bien solides ressemblant vaguement à des brownies. Elle ne sait pas encore si ce sera tout à fait concluant. Mais elle ne se gêne pas pour informer sa clientèle de ses essais. L'agricultrice prône la transparence et la communication. Elle a d'ailleurs demandé aux abonnés virtuels du Jardin de la Devinette de voter pour la chemise qu'elle mettrait lors de la séance photo. Bon choix, tout le monde. De toute façon, le jardinage est une affaire de lâcher prise. Plusieurs d'entre nous l'ont compris dans les dernières années. J'ai appris, en lisant cet article de 2022, que 53% de la population du Québec entretenait une forme de potager en 2022. Plus important encore, 6% de ces jardiniers avaient commencé leurs activités durant la pandémie, selon un sondage produit par l'Université Dalhousie et la firme Angus Reid. Chloé incarne cet engouement. La sécurité alimentaire est importante en période de crise. Et le jardinage fait du bien au corps et à l'esprit. Ça n'a pas à être compliqué quand tu mets en place les trucs pour que ça fonctionne. Il faut passer un bon moment avec ces plantes. Alors, des conseils pour les gens qui ont envie de rejoindre le mouvement sans se fâcher ou qui ne savent cultiver que d'affreux concombres. Commencez sans trop d'attente, répond Chloé Fortier devant. Des fois, tu te lances avec des idées d'autosuffisance et ça n'arrivera peut-être pas tout de suite. Je suggère aussi de cultiver ce qu'on aime, puis d'essayer des variétés et des couleurs qu'on ne trouve pas à l'épicerie. Oh, et de mettre des fleurs dans le potager, parce qu'il sera beau et que ça attirera les pollinisateurs. Finalement, il faut être patient. Jardiner, c'est à l'inverse de l'instantanéité à laquelle on est habitué avec notre rythme de vie effréné. Des fois, on regarde un plant et on a envie de crier « Pousse !» mais ça ne sert à rien. On travaille avec le vivant. Il y a toujours des surprises. Au fond, qui n'aime pas les surprises? C'était « Jardiner comme une suite de devinettes », un texte de Rosemée Autonne-Témorin, paru le 4 mai 2024 dans La Presse.
Partir en vacances, c'est stressant. Un texte de France Dufresne, paru le 29 avril 2024 dans La Presse. L'idée de partir en vacances me stresse, car je ne décroche jamais réellement. En plus de penser à ma boîte courriel débordante à mon retour, j'ai l'impression d'abandonner mes clients. Suis-je le seul? Jules, avocat. La question de Jules met en lumière un problème courant dans le monde professionnel. La difficulté à décrocher et à prendre du temps pour soi. En effet, dans notre société hyper connectée au travail, plusieurs sondages montrent qu'une grande proportion de travailleurs au Canada, entre 50 et 60% selon les études, ne prennent pas toutes les vacances auxquelles ils ont droit et qu'une proportion tout aussi grande d'entre eux travaillent pendant leurs vacances. Cependant, il est essentiel de comprendre les avantages de prendre ces vacances, et ce, tant pour les travailleurs, afin de préserver leur santé mentale et physique, que pour les employeurs, afin de pouvoir compter sur des employés engagés, en santé et disposés à offrir le meilleur d'eux-mêmes. À l'approche de la période estivale, j'aimerais rappeler les bienfaits de s'arrêter et offrir des conseils pratiques à Jules et aux employeurs pour qu'ils puissent favoriser une culture où le repos est valorisé. D'ailleurs, saviez-vous que ne pas prendre ses vacances et ne pas savoir décrocher sont des signes avant-coureurs de la dépendance au travail, workaholism, et que cela augmente les risques d'épuisement? Les vacances font du bien. Prendre régulièrement des vacances présente de nombreux avantages pour le bien-être global. Sur le plan physique, cette période permet souvent de bouger davantage, ce qui réduit les risques de maladies liées à la sédentarité, et aussi de se reposer. En prenant le temps de recharger ses batteries, il est plus facile de retrouver une énergie nouvelle pour relever les défis du quotidien. De plus, sur le plan cognitif, le repos augmente le niveau de concentration et de créativité, ce qui se traduit par une plus grande productivité au travail. Enfin, les vacances offrent également l'occasion de passer du temps de qualité avec ses proches, renforçant ainsi ses relations personnelles. En prenant soin de votre bien-être personnel, vous serez en mesure de vous épanouir hors du cadre professionnel et ainsi de vous réaliser à l'extérieur du milieu de travail. N'oubliez pas que savoir s'arrêter est important pour la viabilité de votre performance à long terme. Les vacances sont comme l'entretien régulier sur une voiture, elles permettent d'éviter des conséquences coûteuses. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Partez l'esprit tranquille. Pour Jules et tous ceux qui ont du mal à décrocher pendant leurs vacances, il est important de vous déculpabiliser et de recadrer votre perception. Les vacances font partie intégrante de la rémunération globale et constituent un avantage important. Si vous êtes anxieux à l'idée de prendre des vacances, commencez par établir un plan plusieurs mois avant votre départ. Prévoyez qui assumera vos tâches en votre absence et désignez une personne de confiance qui prendra votre relève pour les demandes urgentes et qui vous contactera en cas de besoin. Travailler en tandem avec un collègue tout au long de l'année peut également être bénéfique pour assurer un point de contact fiable avec ses clients lors d'une absence. De plus, il est essentiel pour déconnecter réellement de communiquer clairement son absence à ses clients et collègues. Vous pourrez ainsi mieux gérer les attentes et vous libérer de la pression constante d'avoir à répondre aux courriels. Finalement, rendre l'appareil à vos collègues durant leurs vacances vous permettra de réaliser que votre perception négative d'une absence du travail est probablement exagérée. Le sentiment d'entraide et de bienveillance, alors développé par votre équipe, se renforcera au fil du temps et vous permettra d'être de plus en plus en confiance lors de vos propres absences. Vous êtes l'employeur de Jules? Les employeurs ont également un rôle crucial à jouer. En favorisant une culture qui valorise le bien-être et la santé mentale, les employeurs augmentent l'engagement durable de leurs employés, leur productivité et leur satisfaction. Encourager et soutenir la prise de congé montre que l'entreprise se soucie de la santé de ses employés et valorise leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. De plus, encourager les vacances permet de réduire le risque d'épuisement professionnel et d'autres problèmes de santé liés au stress, en plus de démontrer que l'entreprise dispose d'une équipe capable de prendre le relais. La prévention de l'épuisement est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles de plus en plus d'employeurs limitent le report à l'année suivante des jours de vacances non utilisés et le paiement des vacances non prises. Des pistes de solutions. Pour commencer, il est essentiel de porter attention au nombre de jours de vacances pris. Parfois, la réticence à prendre des vacances n'est pas seulement le problème d'une personne, mais plutôt d'un service en particulier ou d'un type de poste. En observant attentivement l'utilisation des congés, il est possible de découvrir les zones plus problématiques dans l'organisation et de creuser davantage afin d'en comprendre les causes. Ensuite, pensez à développer une culture qui valorise la prise de vacances. Cela peut être réalisé en établissant une politique de vacances claire qui vante les mérites du repos, en encourageant le travail collaboratif et la déconnexion, ainsi qu'en reconnaissant et célébrant les vacances. Il va sans dire qu'il est essentiel que les gestionnaires soient sensibilisés à la question et montrent l'exemple en prenant eux-mêmes leurs vacances. Les gestionnaires peuvent également prendre le temps de discuter avec les employés qui reviennent de vacances et leur permettre de raconter leur expérience, leur réalisation et leur découverte. Cela renforcera leur sentiment de valorisation à l'extérieur du travail. En fin de compte, prendre régulièrement des vacances est un investissement dans notre propre bien-être et dans la santé des entreprises. Alors prenons le temps de nous ressourcer et de profiter pleinement de ces moments de repos. Nous en sortirons énergisés, plus créatifs et plus engagés, prêts à relever les défis qui nous attendent avec une perspective renouvelée. À quand vos prochaines vacances? C'était « Partir en vacances, c'est stressant », un texte de France Dufresne, paru le 29 avril 2024 dans la presse.
Il est grand le mystère du foie. Un texte d'Olivier Niquet, paru le 14 avril 2024 dans la presse. Depuis quelque temps, je note une tendance dans le choix des sujets de discussion entre mes amis quarantenaires et moi. La nostalgie de notre adolescence commune a cédé le pas à des dossiers plus matures. Lorsque nous dévissons quelques bouteilles pour deviser sur le sort du monde, c'est de rénovation de salles de bain, d'ouverture de piscines et de puissance de pompes à puisard, ou sump pump, comme on dit dans le milieu du pompage, que nous parlons. Au fil du temps, la sump pump est devenue un incontournable de nos soirées. On en parle au second degré, comme pour nous moquer de notre condition de punk banlieusardisé. Surtout, symptôme de notre déclin, nous parlons de problèmes de santé. Des nôtres, de ceux de nos enfants, de ceux de nos parents. Beaucoup d'histoires de rendez-vous reportés, de cul-de-sac technologiques et de dossiers perdus dans une craque. Une craque aussi grande que la faille de San Andreas, si je me fie au témoignage. Il faut dire que je suis maintenant en mesure de me faire ma propre opinion de notre système de santé, puisque j'ai gagné à la loterie de la médecine familiale il y a un an. Je ne me doutais pas à l'époque que mon premier rendez-vous allait marquer le début d'une anus horribilis. Je crois que l'on dit « année de marde » en français. Ce n'est pas que le système m'a déçu. Au contraire, il a été trop efficace. C'est que pour souligner notre premier encart, mon médecin m'a invité à passer un petit test sanguin, une sorte de pacte de sang pour sceller notre union. Je suis assez sportif et je m'alimente essentiellement de crème Budwig. Alors je ne m'étais pas fait de mauvais sang avec ça, jusqu'à ce que mon médecin m'appelle pour me dire que mon sang était mauvais. « Vous avez la bilirubine dans le plafond, monsieur. » Selon Doctissimo, ma référence en matière d'hypochondrie, la bilirubine est un pigment de couleur jaune présent dans la bile et en faible quantité dans le sang. Un taux élevé de bilirubine peut indiquer une cirrhose, un cancer, une hépatite ou une pléthore d'autres affaires pas cool, comme on dit dans le jargon. Accessoirement, un excès de bilirubine peut causer une jaunisse, ce qui serait très fâcheux pour mon légendaire teint de pêche. Les bouteilles consommées avec mes amis en voie de mononclisation ne seraient pas en cause. Je suis souvent à la limite des recommandations de Santé Canada en matière de se saouler la face, avec une marge d'erreur de 2,6% 19 fois sur 20, mais je n'abuse pas vraiment. À la vue de cette bilirubine inflationniste, mon médecin m'a invité à faire un second test de sang ainsi qu'une échographie. C'est là que j'ai commencé à ne pas me sentir bien. Entre le moment du test et celui où j'ai reçu les résultats qui ont révélé que je n'avais rien de grave, j'ai passé le plus clair de mon temps à m'imaginer quelque chose de grave. Tellement que je me suis mis à avoir un inconfort dans la région du foie. Un inconfort dont l'ampleur était proportionnelle à la quantité d'informations que je consultais à propos de cet organe fascinant. Encore aujourd'hui, je ne saurais faire la différence entre l'intestin, le côlon et une saucisse à hot dog, et je ne suis capable de localiser mon estomac que lorsque je l'ai dans les talons. Mais je connais tous les secrets du foie. Je serais même recommandé à Hannibal Lecter un accord mets-vins des plus parfaits. Cette idée qui tournait en boucle dans mon cerveau avait-elle fini par me rendre malade? C'est un peu ce que mon médecin soupçonnait. Avez-vous pensé, monsieur, que c'est peut-être juste dans votre tête? M'a-t-il dit, mais avec beaucoup plus de doigté. Et qu'est-ce qu'on fait pour combattre l'anxiété causée par un test? On insiste pour passer d'autres tests, comme un épais. Et pourquoi pas une gastroscopie par-dessus ça? Je ne déteste pas les caméras, mais je n'étais pas si excité à l'idée qu'on me filme le fort intérieur à l'aide d'un tuyau gros de même. Tout était beau partout, sauf le taux de bilirubine qui ne voulait rien savoir de descendre. Probablement une condition génétique bénigne. C'est pour des situations comme ça qu'on ne fait pas des tests pour le plaisir de faire des tests, m'a dit mon médecin. Le plus pathétique dans tout ça, c'est que je me croyais immunisé contre ce genre de situation. Mon beau-père était un expert en santé publique dont l'un des combats était le surdiagnostic. Notre société, qui a de moins en moins de tolérance au risque, a développé tellement de tests de dépistage qu'on en est venu à soigner des problèmes de santé qui nous auraient tués à 138 ans ou à nous rendre malades de stress à cause de résultats légèrement hors normes. En bonus, les niaiseux comme moi embourbent le réseau. Moi qui me croyais imperturbable, moi dont l'esprit tourne généralement à la vitesse d'une roue de hamster sans hamster dedans, j'ai compris ce qu'un cerveau qui spine peut faire. Tranquillement, je commence à lâcher le morceau de mon hypocondrie momentanée, mais je dois encore m'obstiner avec moi-même pour me convaincre que cet inconfort abdominal que j'ai derrière la tête n'est pas inquiétant. Lorsqu'on vous dit de ne pas penser à quelque chose, il y a de bonnes chances que vous n'arrêtiez pas d'y penser. Les politiciens utilisent cette stratégie pour planter des idées dans nos têtes, mais ça marche aussi avec mon foie. Le gros bon sens n'y peut rien, malgré ce que dirait Pierre Poilievre. Après toutes ces années à trouver mystérieux les gens anxieux et stressés qui ne sont pas capables de prendre sur eux, je comprends maintenant beaucoup mieux la puissance destructrice du cerveau. Tellement qu'avec les changements climatiques, je commence à être assez stressé pour ma pompe à puisard. Qui est Olivier Niquet? Olivier Niquet a une formation en urbanisme. Chroniqueur radio, que l'on peut notamment entendre à l'émission La Journée, est encore jeune sur Ici Première, il a publié deux livres, Le Club des Mal-Cités et Les Rois du Silence, ce qu'on peut apprendre des introvertis pour être un peu moins débile et, peut-être, sauver le monde. Il est aussi scénariste et conférencier, en plus d'alimenter les sites tourniquet.québec et spornographe.info. C'était « Il est grand, le mystère du foie », un texte d'Olivier Niquet paru le 14 avril 2024 dans La Presse.